musique. Galaxy, Orange Orange, Antoine Graton, Steffi Choc, Marc Derry, Marco Cagliari, Nicolas Pellerin, Papa Groove et Catherine Pogonat seront aussi de la fête.
Billets disponibles sur jeunesmusiciensdumonde.org et au Club Soda. Une présentation à la Capitale Groupe Financier.
Bonjour, ici Evelyne de la Chenelière sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la Relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ? Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à vuesurlarelève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 17e édition de Vue sur la Relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril 2012.
Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
Et c'est du Vanguard au savoir.
We'll be right back.
Bonsoir, bienvenue à Jazz à Crédit. Mon nom est Maxime Bouchard, en poste pour la 7e émission de la 19e session. Nous avons commencé le tout avec quelque chose de bluesy, ça s'appelle Nothing But The Blues, le nom de l'album. En 1958, nous sommes chez Verve et c'était la guitare de Herb Ellis, accompagné de Roy Heldridge à la trompette et de Stan Getz au sax ténor. Très, très bonne session qui nous rappelle à quel point Herb Ellis était talentueux, car bien évidemment, c'était le guitariste attitré pendant une longue période du Oscar Peterson Trio dans les années 50, une longue collaboration de 1953 jusqu'à 1958. Un album qui a été réédité en 2004 chez Verve toujours, et on a ajouté des pièces supplémentaires, notamment une session avec Jimmy Guifry, et c'est vraiment un achat qui vaut la peine, ça meuble bien l'espace, c'est vraiment juste des blues, mais des blues assez, assez bien joués, on tombe pas non plus dans la balade, mais on reste à un très bon, assez mellow tempo environ. Et voilà, j'ai bien aimé cet album de Herb Ellis. Cette semaine, à Du Vanguard de Haute-Savoie, en deuxième partie d'émission, on va regarder deux des dernières parutions chez Tzadik, un album de John Zorn, même s'il ne joue pas sur l'album, ça se nomme At the Gates of Paradise. On va aussi avoir un album qu'on pourrait classer dans l'électro-acoustique de Nocif, Maury Parker et Laswell. L'album se nomme Near Nadir, mais pour l'instant, je rejoins Marie-Ève Boulanger, qui est avec moi en studio. Bonsoir, Marie-Ève.
Bonsoir, Maxime.
En grande forme?
Oui, certainement. Ici à l'UQAM, c'est la semaine de relâche.
C'est la semaine de relâche. Ça fait du bien un peu de prendre
petit repos. Oui, on a plus de temps pour travailler sur ces choses, n'est-ce pas?
Voilà, mais on n'arrête jamais.
Non, tout à fait, parce que le jazz à Montréal, ça bouge toujours.
Hein, c'était des grosses semaines avec Love Festival et aussi, même si on doit le dire, moi de mon côté, je m'en veux, j'ai pas vraiment vu de concert à l'offre cette année.
Non,
ça a
moi,
donné
j'en
comme
ai
ça.
Vu trois ou quatre, mais ce qui arrive aussi, c'est que c'est tout dépendant où est-ce qu'on habite. Moi, j'habite dans
ouais,
l'Est.
C'est vrai.
C'est,
tout ce que, oui.
C'est assez concentré, disons, sur Saint-Denis. Mais ce que j'ai entendu, je trouve qu'en fait, que le Festival de Jazz cette année répondait bien au mandat qu'il s'était donné, justement, de prôner la découverte et le fun, parce que ça transpirait vraiment au niveau des formations qui étaient présentes. Pour ma part, j'ai fait des découvertes assez intéressantes, donc je me suis habituée, justement, aux choses un peu plus trash, si je peux me permettre de dire ça, je suis restée quand même toutefois dans le compréhensible, mais des belles choses.
Ouais, si les gens vont en savoir plus,
là, j'ai pas les noms de qu'est-ce que j'ai vu.
Mais sur le blog de l'émission au notallthatjazz.wordpress.com, tu as mis tes comptes rendus de spectacle. Oui. Et moi aussi, la semaine dernière, je suis allé voir vendredi dernier Harry Henning, Lines of Oppression. C'était à l'Astral, avec entre autres Tigran Amassian au piano. Un concert correct. C'était le premier concert de leur tournée. Ça faisait un an qu'ils n'avaient pas joué ensemble. Ça paraissait un gros manque de cohésion dès le départ.
Oui,
ça a pris le troisième morceau du concert pour que ça lève un peu, et c'était une reprise. Donc, quand c'est pas les pièces originales qui font lever le show, mais plus les reprises, on se pose un peu de questions. Des musiciens qui semblaient encore un peu sur leur garde. C'est normal. Premier concert d'une tournée, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué le matériel, je peux comprendre. Mais c'était plein à l'Astral. Et les gens ovation debout. J'ai des réserves sur ce concert, et j'ai aussi écrit un compte rendu. Ça se trouve sur le notallthatjazz.wordpress.com. Musicalement, qu'est-ce que tu as pour nous, Marie-Ève?
Oui, donc moi, je suis tombée sur des choses qui sont assez intéressantes dernièrement. Vous vous souvenez peut-être que j'ai une attirance particulière pour les grands orchestres. J'ai été servie cette semaine dans mes découvertes. La première, c'est pas vraiment un orchestre. Bon, c'est drôle parce que moi, je pense orchestre, je pense à Touffu. Et là, la pochette de l'album de Four Tough, c'est des sapins. Fait que je sais pas pourquoi j'ai dit orchestre, mais c'est le lien qui m'est venu en tête, du moins. Je vous parle donc de Four Tough, donc de quatre pensées en un mot en anglais, qui regroupe Nicolas Biello au saxophone, Manuel Welland au drum, Kieron Chuck au piano et Cameron Kane. Kaney, pardon, à la basse. C'est un quartet qui est basé à New York City. Et puis, voilà, moi, j'ai fait une critique de cet album-là. Je suis mis la main sur ça par hasard. Je m'attendais à quelque chose de très fluide, de très, très rafraîchissant. Et ça a été un petit peu le contraire qui s'est passé. Mais Toutefois, dans un album de jazz, c'est souvent pas toutes les pièces qui sont intéressantes. Dans ce cas-ci, dans l'album Fourth Off, je sais pas comment dire en anglais, là, j'ai pas un très bon anglais. Donc, dans l'album de Fourth Off, qui s'appelle aussi Fourth Off, c'est la cinquième et la septième pièce, donc la dernière, qui sauve le tout. Parce que, bon, durant les quatre ou cinq premiers titres de l'album, on sert un jazz qui est assez post-bop classique. Donc, un jazz de qualité, mais vraiment rien de plus. Un jazz de salon, facile d'écoute et pas compliqué. Et d'une pièce à l'autre, on sent la diversité à travers les intentions. Et là, tout à coup, on tombe sur un peu plus de modernisme sur la pièce Arrival. Il y a vraiment une superbe vibe dans A Change of Heart, très romantique et très senti. Et à partir de cette pièce-là, ça c'est la cinquième, si je ne me trompe, on sent l'intensité augmenter vraiment. Le dernier titre de l'album que je vais vous faire passer en partie, parce qu'il dure quand même 12 minutes, s'appelle Améthyste. Et elle est très évocatrice comme titre. On s'imagine plein de choses juste avant l'écoute. C'est une introduction au piano très moderne qui est à contre-temps, qui nous est servie. Nimissier semble enfin sortir de leur carcan de bebop et pousse vraiment plus loin dans la tonalité, donc en laissant place aux possibilités harmoniques du piano qui sont très intenses. Donc l'enregistrement est presque organique, on se sent vraiment bien dans cette pièce-là, parce qu'on sent l'écho de la salle comme si nous, on était dans le bar en train de les écouter. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pourquoi est-ce que je dis que ce titre sauve l'album? Ben c'est parce qu'on sent enfin la véritable nature des interprètes qui sont en fait dans la fin vingtaine. Et qu'est-ce que j'ai pas compris du tout avec cet album-là, c'est qu'on nous sert du bebop, vraiment classique, et c'est à la fin qu'on sort une pièce totalement free, compréhensible toutefois. Mais bon, moi, j'étais assis et je n'en revenais pas de qu'est-ce que j'entendais par rapport à qu'est-ce qui m'avait été offert précédemment. Donc, pourquoi est-ce que le récent album ne ressemble-t-il pas à ce titre uniquement? Eh bien, j'ai pas de réponse, mais tout ce que je sais, c'est que Améthyste, c'est vraiment une pièce superbe. Les musiciens sont chevronnés et on sent vraiment l'unicité qui est présente au sein de cet ensemble-là, grâce à Fourth Off et, excusez-moi, à la pièce Améthyste. Donc, pour ça, allez vous procurer cet album-là, ça presse.
Mais regarde, c'est un album qui est paru de manière indépendante.
Oui, c'est ça. C'est pas très connu. Je suis contente quand même d'avoir découvert ça, comme quoi, justement, on peut avoir des variations assez différentes. Les musiciens de jazz essaient la plupart du temps de ne pas offrir toutes les mêmes choses sur un même album, tu sais.
Mais surtout, si c'est un premier album, ça peut être pour démontrer un peu la palette du groupe,
ouais,
dans
comme
un
quoi
sens.
Ils sont capables de faire dans le classique.
Ouais, exactement.
Et aussi dans le free, mais bon, quand même une belle surprise, là. J'ai dit que je faisais passer la pièce Améthyste, qui est là l'autre avant aussi.
C'est Arrival qu'on va faire jouer aussi.
Donc voilà, voici Fourth Off avec Arrival et Améthyste.
Thank you.
Actuellement Amethyst du Four Tough Quartet originaire de New York. C'était aussi précédemment la pièce
Arrival.
Merci Max. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, ils ont un site Facebook, donc vous tapez Four Tough. Ou sinon, si vous allez...
Ils ont un site internet aussi.
Oui, c'est quoi?
C'est fourtough.net.
Oui,
mais
ouais. Au pire sur Google, c'est super facile. Vous tapez Four Tough Jazz, vous allez tomber dessus. Ça vaut la peine. C'est vraiment, là, en tout cas, pour cette pièce-là, ça sauve l'album. Si vous allez voir aussi ma critique...
C'est ça, fourtough.net.
OK. Ma critique textuellement sur le blog notalladjazz.com, elle est là. Donc, je continue ce soir avec le François-Richard Nouvel Orchestra. François-Richard, vous connaissez peut-être, c'est un musicien de longue date, un flûtiste, en fait, qui a reçu une solide formation musicale dès l'âge de 10 ans, avec notamment le grand maître de la flûte classique, Jean-Pierre Rampal. Donc, dans ce dernier opus, François-Richard nous propose, à travers un concept mis sur pied par les productions CMFR, donc Création musicale François-Richard, un ensemble de compositions originales écrites pour un ensemble de 12 musiciens. Ce triple quartet est composé d'un ensemble de jazz additionné d'une section de cordes dirigée par Stéphanie Allard, auquel s'ajoute la présence inattendue d'un cor français. Donc, cet album-là est arrangé et composé à 100% par François Richard. Et c'est du stock 100% original qui est caractérisé par un jazz quand même assez classique, mais avec une touche de modernisme post-romantique. Donc, c'est vraiment un ensemble de jazz avec un ensemble de cordes. Pourquoi est-ce que j'ai accroché là-dessus? Ben, c'est parce que c'est un grand ensemble. Et honnêtement, ma trouvaille, mais j'étais tellement contente de tomber sur ça. Le François Richard Nouvel Orchestra accueille aussi des invités en spectacle. Et c'est le cas cette fois de David Binet, mon ami saxophoniste qui vient de New York, qui est, à mon avis, un des plus grands saxophonistes aux États-Unis actuellement. Donc, il n'est pas vraiment égalé, à mon
hyper
avis.
Hyper productif.
Oui, oui, il joue beaucoup, hein?
Il joue beaucoup.
Donc, il joue cette fois avec le François Richard Nouvel Orchestra sur une pièce qui s'appelle Z. Donc, ça vient de son nouvel album. Aussi, nous écouterons par après la pièce Vitre de son, qui cette fois-là est tirée de l'album préenregistré. Donc, celle avec David Binet, c'est une prestation live qu'on vous présente. Et l'autre, c'est de son album original. Et je voulais vous montrer aussi la différence qu'il existe justement entre les prestations live et l'album enregistré. Personnellement, j'ai trouvé que cet album-là, c'est un jazz classique. La flûte traversière est mise en valeur, mais pas trop, donc c'est pas si pire que ça si on n'est pas super OK avec l'instrument. Moi, je suis quand même assez ouverte, mais bon, j'espérais que ça soit pas juste de la flûte traversière. Et à mon grand bonheur, c'est pas le cas, parce que les arrangements sont très bien faits.
Ouais, puis il est bien entouré aussi.
Oui, ben oui. Avec qui est-ce qu'il joue? Il joue avec François Bourassa au piano, Guy Boisvert à la basse, Martin Auguste à la batterie et... ouais. Ça, c'est sur l'enregistrement que je vous fais passer, donc live. Et sur l'album, il joue avec Yannick Rieux au saxophone, Jocelyn Veilleux au cor français, quand même, Stéphane Allard, Mélanie Bellaire et Zoé Dumas, Jean-René, Ligia Paquin et Sheila Hannigan au cordes, Geoff Lapp au piano, Guy Boisvert à la contrebasse et Michel Lambert à la batterie. Ça, c'est la formation pour l'album. Donc, effectivement, c'est un musicien qui est très bien encadré. Prolifique aussi. Il joue beaucoup, il a joué avec beaucoup de monde. Donc, pour et moi...
Moi, je le vois souvent quand je vais voir des concerts de jazz. Ouais, c'est quelqu'un qui encourage ses confrères et qui va voir beaucoup de concerts aussi.
C'est intéressant. Moi, je ne l'ai pas encore rencontré. Oui. Je risque de le reconnaître à l'avenir. Donc, d'ailleurs, pour la raison pour laquelle je vous en parle aussi, c'est qu'il sera en concert prochainement au Café Les Entretiens le jeudi 27 octobre, donc jeudi de cette semaine. Probablement que ça risque d'être en formation très réduite, donc lui avec quelques musiciens. Mais si vous voulez avoir une idée de qu'est-ce que c'est François Richard live et le reconnaître aussi dans les shows de jazz, c'est l'occasion. Donc voici la pièce Z et tout de suite après, donc la pièce Z qui est enregistrée live avec David Minet et tout de suite après la pièce Vitre de son tirée de son album.
Thank you.
C'était le François Richard Nouvel Orchestra. Nous écoutions précédemment la pièce Vitre de son qui est tirée de son album éponyme. Et tout de suite avant, la pièce Z avec en vedette David Binet qui était cette fois un enregistrement live.
Live au Jésus.
Au Jésus,
le
c'est
17,
vrai.
Ça... 17 février 2011.
Oui, j'ai manqué ça, mon Dieu. Mais écoutez, c'est drôle parce qu'on parlait tantôt des pièces qui sauvent un album. Eh bien, comme par hasard, cette pièce-là, c'est tirée de l'album qui est apparu dessus, Effendi. J'aime beaucoup Effendi, mais j'ai remarqué cependant que les pièces plus expérimentales, ils sont à la fin de l'album.
Tout dépendant, là,
ouais,
des albums.
Oui, c'est pas la première fois que j'entends ça. Et je trouve ça intéressant parce que personnellement, je trouve encore une fois que c'est la pièce qui a sauvé l'album. Et pour cette raison-là, allez vous chercher le François Richard Nouvel Orchestra. C'est un album qui est facile d'écoute. N'importe quand, mon Dieu.
Et c'est quand même un groupe qui donne à Montréal au moins un concert par année, je dirais. Mm-hmm. Si c'est pas au Jésus, c'est sûr, c'est toujours mieux. Ouais, je crois que la plupart du temps, c'est au Jésus aussi.
Mais c'est une belle salle, la Grand Ensemble.
Ouais, pour un ensemble comme celui-là, très, très bonne acoustique. On est proche, on voit bien. Mm-hmm. C'est le fun de voir les musiciens interagir et puis jouer. Il y a souvent aussi un artiste invité. Moi, j'avais vu cet ensemble, mais c'était avec Mark Feldman, qui est un violoniste, mm-hmm. et j'avais bien aimé ça.
Mm-hmm. Ben écoutez, ça va être à retenir, en tout cas, le François-Richard Nouvel Orchestra. Et si vous avez l'occasion de réécouter la pièce Vitre de son, je vous encourage à aller chercher l'album. Je termine aujourd'hui ma chronique avec le Anne Mette Iversen, qui est originaire du Danemark, donc elle est danoise. J'ai découvert ça encore une fois par hasard et... son album est divisé de façon assez particulière parce que premièrement, c'est un album double qui est divisé en mouvements classiques, donc allegro, adagio, menuet, presto. Et sur le deuxième album, bon, il y a deux pièces qui sont plus longues, qui sont un peu à part. Qu'est-ce que moi m'a accroché chez Anne Mette Iversen, c'est que elle a une formation classique très forte, donc elle a évolué avec les influences jazz et classiques tout au long de ses études et de sa carrière. Et fait intéressant, la première pièce que je vais vous faire passer est inspirée de son background jazz et classique. Et cet album au complet, là, reflète la vision qu'elle a de la vie. Pour elle, il est capital de focusser sur la communication entre les différentes cultures. Donc, c'est une métaphore de la dualité entre les cultures jazz et classiques. Et on retrouve souvent cette dualité-là chez nos voisins européens, justement, au niveau du jazz. Ils ont un sens de la construction harmonique effrayant. Je sais pas comment ils font.
Ouais, c'est des musiciens qui ont beaucoup de pratique, je pense. Mm-hmm. Des musiciens qui sont soutenus par l'État. Et ça, ça paraît. Des musiciens qui vont aussi faire beaucoup de voyages à travers l'Europe, dans différents pays. Ils vont créer des liens avec des musiciens. Ce qu'ici, on fait, évidemment, mais pas autant qu'un musicien, disons, d'Europe centrale, admettons. C'est normal aussi.
Ben, c'est sûr que nous, il existe le Québec et New York.
Oui, ben, les États-Unis et le reste du Canada.
Mais
c'est une musique qui se ressemble, là, de Colombie-Britannique jusqu'au Maritime. Le jazz nord-américain, c'est le jazz nord-américain. Il y a des raffinements, il y a une diversité, oui, en effet, mais reste qu'il y a un courant fort qui...
Donc, dès qu'un artiste a une influence européenne, pour ma part, c'est facilement détectable.
Oui, et c'est très difficile, je pense, pour un jazzman de faire une tournée pan-canadienne aussi.
Oui.
Oui, parce que c'est pas vraiment soutenu par l'État,
ça va être un fait... à réfléchir. En tout cas, on pourra en débattre pendant très longtemps. Mais bon, pour le moment, je vous présente le Anne Mette Iversen Quartet. En fait, c'est pas vraiment un quartet. Attendez.
Elle joue avec...
elle est à la basse, c'est vrai. Elle est contrebassiste.
Ouais. Elle joue avec son quartet et aussi avec un quartet de chambre qui se nomme Four Corners. Ouais, c'est ça.
Donc, c'est assez intéressant. Écoutez, je vous reviens tout de suite après. Voici le Anne Mette Iversen ensemble avec la pièce qui s'intitule...
East Allegro.
Voilà. Merci.
We'll be right back.
Alors, nous écoutons le Anne Mette Iversen, album Best of the West avec la pièce West.
C'était East Allegro de Anne Mette Iversen Quartet avec le String Quartet Four Corners.
D'ailleurs, au saxophone, super solo ouais. Notamment. John Ellis.
Ça sonne très bien, ça.
Oui, c'est super bon. Hein. Donc, voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations, écoutez ces pièces-là. Elles sont toutes disponibles sur le Bandcamp. Le Bandcamp de Anne Emmett. Donc, c'est le http://annemettiversen.bandcamp.com. Vous allez pouvoir entendre la suite de cette pièce-là intitulée East et ainsi que toutes les autres. Ça vaut vraiment la peine.
On se rend compte que Bandcamp vient de. Ça fait peut-être déjà un an.
On a shifté MySpace.
C'est exactement ça que j'allais dire. C'est surtout que tu peux acheter la musique directement sur le site.
Il n'y a pas d'interface.
Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu sais que l'argent, il y a peut-être un pourcentage qui va à Bandcamp, je ne sais pas, mais je crois que c'est les artistes qui décident du prix.
Oui, souvent, ça va avoir 9$ pour un album.
Oui, et puis tu peux avoir la qualité. L'artiste peut décider de la qualité sonore et puis tu peux ajouter aussi des images, des JPEG, des crédits. Vraiment, c'est très
bien. Comme le Google de l'interface musicale parce qu'il y a une image avec des boutons qui sont super simples.
Ouais.
Puis il n'y a rien qui saute d'en face
c'est
à tout moment.
C'est le web 2.5, mettons.
Alors, hey, merci Max de m'avoir fait la place.
Ça fait plaisir. Merci pour ces découvertes.
Et vous me retrouverez en chronique des critiques de spectacles et de CD sur Internet, sur notre super WordPress aussi, un site qu'on aime beaucoup.
Ouais, c'est le blog notallthatjazz.wordpress.com. Merci Marielle.
Merci.
Alors, de mon côté, je vais y aller avec quelques nouveautés qui viennent de paraître, qui sont parues dans les dernières semaines chez Tzadik, cette étiquette de disque de Jorn Zorn. Il y a toujours des trucs intéressants qui sortent de cette étiquette. On va écouter aujourd'hui deux nouveautés. D'abord, At the Gates of Paradise et, selon le temps qui va nous rester, Near Nadir. Le premier truc, c'est, disons, ça s'inscrit dans l'œuvre qu'on pourrait qualifier de mystique de Jorn Zorn. Son œuvre est assez divisée par différentes pensées, par différentes influences. Parfois, ça peut être très jazz-rock, du noise. Bon, il a traversé différents courants. Et depuis les dernières années, très influencé par certains écrits mystiques, par la pensée juive, mais aussi par une pensée qui remonte aux ancêtres juifs, à la fondation de la religion ou à des grands moments historiques. Ici, At the Gates of Paradise, c'est influencé par l'œuvre de William Blake et par les écrits gnostiques des archives du Nag Hammadi. Ça, c'est gardé dans une bibliothèque et ça remonte assez loin dans le temps. Et ça donne une musique qui est soft, qui est douce, qui est agréable à l'écoute. C'est le Jorn Zorn, mais le gentle side, le côté gentil de Jorn Zorn. Et c'est joué aussi par des musiciens qui sont habitués de jouer son cahier, son corpus, ses compositions, et c'est vraiment bien joué. Sur cet album, on retrouve John Medeski au piano et à l'orgue, Kenny Wilson au vibraphone, Trevor Dunn à la basse et Joey Barron à la batterie. On va entendre deux morceaux pour l'instant. Tout d'abord, Dance of Albion, et ce sera suivi de Light Forms.
Light Forms, oui, avec un S, composition de John Zorn sur l'album At the Gates of Paradise. Nous allons rester chez la même étiquette de disque. Je peux quand même vous annoncer une soirée improvisation qui a été annoncée. C'est une soirée improvisée à l'atelier Wilder et Davis. C'est la première fois que j'entends parler de cet atelier. Ça se trouve au 257 de la rue Rachel Est à Montréal. Et il y a une soirée d'improvisation qui est programmée pour le 27 octobre avec Géraldine Aguiluz à la voix, Émilie Girard-Charret au violoncelle, Solomiyaz Moroz à la flûte, avec Land of Marigold, le duo de Elwood Epps à la trompette et de Josh Zubo au violon. C'est à 21h tapant. Hein? Et on vous le dit là, vraiment, c'est à 21h, ça commence. Contribution volontaire avec une suggestion de 7$. Voilà. Aussi, si vous voulez plus... je pense que oui, ma consoeur vient de me dire que j'ai commencé l'émission en disant « Bienvenue à Jazz à Crédit », qui est mon autre émission à CISM, mais vous écoutez bien sûr du Vanguard au Savoie. Je pense que c'est parce que le blog que j'ai créé, je l'ai fait pour les deux émissions et c'est peut-être pour ça là, qu'il y a eu confusion, mais quoique les deux émissions sont assez différentes dans leur structure et dans la façon dont la musique que je fais jouer, comment c'est inséré, comment c'est pensé. Voilà. Alors, on va finir l'émission avec... un album de Bill Laswell avec Evan Parker, Iku Umori et Mark Nocif. Ça se nomme Near Nadir. C'est paru chez Tzadik. Ici, on est dans l'électro-acoustique. C'est pas tout le monde qui aime ce genre musical. Ça peut être très ardu de s'y faire ou une musique qui... Peut-être qu'on pense qu'il faut arriver là avec des connaissances, mais bon, je pense que sur cet album-là, on se laisse en prince. Ça fait penser parfois à une trame sonore de films de science-fiction. Moi, j'ai appelé ça un peu cyberpunk. C'est assez étrange, mais on n'est pas ici dans... C'est pas violent. C'est je dirais pas reposant, mais c'est même si c'est étrange, bon, on se laisse entrer. Moi, j'ai vraiment rentré dans l'écoute de cet album-là. Ikumori, c'est à l'électronique. Il y a vraiment des sons qui arrivent de gauche à droite. Parfois, il n'y en a pas, mais des fois, on se laisse surprendre, il y en a. Des sons un peu comme de l'eau qui coule. Ikumori, que j'avais déjà fait jouer lorsqu'elle elle accompagnait Sylvie Courvoisier. Il y a Evan Parker au sax soprano sur l'album. Et ici, c'est pas le gros Evan Parker, disons, d'un album solo où il va jouer 20 minutes non-stop, sans arrêt, sans qu'on a l'impression qu'il respire. Il y a un peu de respiration circulaire, mais c'est un Evan Parker qui va plus par petites touches. Mark Nocif, lui, joue du bent metal, en fait, toute une panoplie de percussions, du woodblock, du tom-tom. Et Bill Laswell, lui, est à la basse. C'est là-dessus qu'on va se quitter. On va en avoir jusqu'à la fin de l'émission. On va entendre Valhalla, Orbs, Nooks, Near Nadir et une partie de Flo V. Roudob. Ça s'appelle Near Nadir. Mon nom est Maxime Bouchard. Vous écoutez du Vanguard au Savoie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.